On aimerait parler de la parole de Dieu et que sa parole nous parle, et qu'elle nous parle ce matin. C'est notre prière, Seigneur, on te demande de nous parler ce matin. Merci pour ta présence, merci pour ces chants, merci pour la communion, merci pour cette église. Nous te confions, Seigneur, particulièrement dans tous les défis qu'elle rencontre, pour chaque membre, chaque frère, chaque sœur, pour ceux qui visitent, pour ceux qui s'approchent, pour ceux qui sont peut-être un peu en périphérie, Seigneur. Encourage chacun dans sa foi, dans sa marche, par ta parole, Seigneur. Et ce matin, voilà, que cette parole puisse faire du bien à tous ceux qui nous écoutent. Je pense à la famille Gigon aussi qui est avec nous et notre frère aussi qui est au Paraguay. Merci de faire du bien à chacun. Et ceux qui entendront peut-être plus tard sur leur téléphone, que ces paroles puissent percer les cœurs et encourager notre marche à te faire confiance au nom de Jésus-Christ. Amen. On va lire un texte dans Matthieu chapitre 6, c'est un texte qu'on connaît bien, peut-être très bien, mais c'est pas grave. On va demander au Seigneur qui nous parle ce matin à travers ce texte, Matthieu chapitre 6, et on va lire à partir du verset 19. Et on va parler de la foi ou de l'inquiétude. C'est deux options possibles. Croire Dieu, faire confiance à Dieu ou s'inquiéter. Et nous, on a la possibilité entre les deux. Le monde n'a que la possibilité de s'inquiéter puisqu'il a choisi de ne pas croire en Dieu, de ne pas se confier en lui. Et c'est pour ça qu'il s'inquiète. Mais nous, on a une autre option. On peut se confier en Dieu. Donc Matthieu chapitre 6, verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Même les coffres forts suisses peuvent être dérobés. Hein, parenthèse. Donc, c'est un bon conseil que Jésus nous donne. C'est Jésus qui parle. Hein. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent point ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ne pas s'inquiéter pour notre vie. On reviendra un petit peu sur tout ce texte tout au long du message. Mais commençons avec ceci. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que ta vie? Merci. Ne pas s'inquiéter. Parce que l'inquiétude, je pense que c'est quelque chose qui nous concerne tous, n'est-ce pas? Et c'est si facile pour nous, c'est si naturel en fait, de s'inquiéter. Et peut-être ça nous arrive encore à nous qui sommes enfants de Dieu, face à des situations, face à des montagnes, face à des circonstances. Mais si ça nous arrive quelquefois, il ne faut pas que ça devienne notre mode de vie. D'accord? Soyons honnêtes, on, on sait qu'il ne faut pas s'inquiéter, mais ça nous arrive encore. D'accord ? Et donc, ce matin, on va voir justement comment, lorsqu'on entend une nouvelle, des circonstances, on écoute la radio, la télévision, les informations, ou notre vie, ou des situations, et on laisse des choses, des éléments dans nos vies peut-être mijoter, et comme une sorte d'inquiétude dans l'âme, un poids. Et Dieu nous dit non, on ne va pas vivre comme ça. D'accord ? Face à une situation, une circonstance, peut-être la première réaction, c'est de... Mais après, une fois qu'on a réagi, peut-être avec une réaction naturelle, on va choisir de faire un pas de foi et de marcher par la foi dans ce que Dieu nous propose et les provisions qu'il nous donne. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on vit ici-bas sur la terre, d'accord ? Et comme tous les hommes, on est confronté aux difficultés de ce monde, aux difficultés de la vie, de la santé, de l'économie, d'un travail, du chômage, enfin de la vie, des réalités de la vie. La Bible nous dit un peu plus tôt dans le texte de Matthieu, au chapitre 5, verset 45, il dit « Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever le son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Voilà. On est limité, on est sur cette terre, et voilà, il y a des méchants, il y a des gentils, le soleil quand même, Dieu le fait lever pour tout le monde. D'accord? Et la pluie, elle tombe pour tout le monde aussi. Hein, il y a des bonnes choses qui arrivent et des moins bonnes qui arrivent dans la vie. Mais en tant que chrétien, il y a une grande différence en ce qui nous concerne. C'est que nous sommes devenus enfants de Dieu. D'accord? Nous croyons en Dieu, nous avons un Dieu, nous avons un papa dans le ciel. Et ça, c'est dans Romains chapitre 8, verset 15, qui nous dit « Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. » Mes amis, on n'a plus besoin de vivre dans la crainte encore, n'est-ce pas ? Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Vous savez, les enfants, en fait, ils sont dans le souci dès qu'ils ont perdu les petits, je parle des plus petits, hein, mais dès qu'ils sont plus, ils voient plus les parents peut-être et ils sont face à une situation, ils sont peut-être dans le souci, dans la crainte. Dès que le papa est là ou la maman est là, hop, ils vont gérer. Ben nous, on doit faire pareil en fait, n'est-ce pas ? Verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. D'accord ? Nous sommes enfants de Dieu aujourd'hui. On n'est pas juste abandonné là tout seul sur cette terre, on est les enfants de Dieu. Verset 17, « Or si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. » Et au verset 18, il dit que « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Donc on est encore dans ce monde de souffrance et le texte qui poursuit montre qu'on souffre les douleurs de l'enfantement. Donc tant qu'on n'a pas la pleine rédemption, on est encore ici-bas, on sera confronté à la mort, à la maladie, aux difficultés, aux échecs. Et on aura besoin d'user de patience, de foi et de recevoir la grâce de Dieu pour continuer à avancer. Mais en position, nous sommes déjà. C'est-à-dire, quand vous savez que vous êtes en sécurité, eh bien, les soucis et les difficultés de la vie qui arriveront, ben, vous pouvez les appréhender de manière différente. Donc, chacun d'entre nous, nous avons des besoins primaires. Là, Jésus est très, très basique, hein. Manger et boire, arrêtez de manger et boire pendant quelques mois, vous n'irez pas quelques mois, en fait. Ça s'arrêtera avant. D'accord? On a besoin de manger et de boire. Et qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Et où on va manger ce soir? Hein? Alors, quand on a nos habitudes chez nous, on sait à peu près comment ça fonctionne, mais quand on est en voyage, quand on est à l'étranger, qu'est-ce qu'on va manger? Et où on va aller? Qu'est-ce qui va se passer? Nous, les Français, c'est matin, midi, le goûter quand même, le soir, le dîner. Enfin, je veux dire, on a nos rituels. Hein. Pas rater un repas, sinon la journée, ça va pas aller. Et donc, c'est facile, en fait, de vivre dans la crainte, de s'inquiéter du lendemain. Et ce qu'il faut se rappeler ici, à un moment, Jésus dit, à quoi ça sert de vous inquiéter ? Parce qu'en vérité, ça va pas rajouter quelque chose. De s'inquiéter. En plus, on s'inquiète, ça nous ronge, ça nous abat dans l'âme, ça nous décourage, ça nous ronge à l'intérieur. Mais vous savez que on n'a pas calculé, je ne sais pas si on a calculé statistiquement, mais on pourrait dire que 80 à 90% des choses sur lesquelles on s'inquiète n'arrivent jamais. Vous voyez le temps perdu? Donc, quand on s'inquiète, en fait, c'est qu'on projette notre finitude. On projette nos limites, on projette notre peur de souffrir, on projette nos manques. On projette, on prend conscience qu'on vit dans une prison. Et cette prison, c'est la crainte de la mort. Et on est tous, nous étions tous dans cette prison. D'accord? Dans Hébreux chapitre 2, verset 15, la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu nous délivrer de la crainte de la mort, hein, dans laquelle on a été retenu dans la servitude. Christ nous a libérés, nous a affranchis de l'esclavage du péché. Christ nous a affranchis de la mort à laquelle nous étions destinés. Pourquoi ? Parce qu'il nous a offert le pardon, il nous a offert le salut, il nous a offert la sécurité, il nous a offert un nouveau nom. Il a fait de nous ses enfants, ses héritiers, co-héritiers. Donc nous avons une position, nous avons une assurance en lui. Qu'est-ce que nous craignons en fait ? Tu crains de mourir ? Mais même ça, on a été racheté. Même ça, ce qui nous attend après, c'est l'éternité dans la gloire de Dieu. Ça, c'est la meilleure chose qui va nous arriver un jour, n'est-ce pas ? Donc, chacun d'entre nous, nous sommes au bénéfice de la bonne nouvelle de l'Évangile. Parce que nous l'avons cru, parce que nous l'avons reçu, parce que nous sommes... Et de recevoir la parole, de recevoir la vérité, ben, il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors, on disait tout à l'heure, on est soumis comme tous les hommes, d'accord ? Il faut mettre de l'essence dans sa voiture. Les chrétiens, ils ont besoin de passer à la pompe à essence et à payer le même prix que les autres. On devrait avoir deux prix quand même. Nous, on est enfants de Dieu, Seigneur, quand même. On pourrait avoir un prix dégressif à la pompe. Non ? On paye la même chose. Les impôts, mais pareil. Et quand on va à la Migros, bah, le chocolat, on le paye pareil. Donc... C'est vrai que voilà, on est confronté aux mêmes choses, mais nous c'est quand même différent maintenant. Notre lendemain est assuré. Vous voyez pourquoi Dieu nous dit, Jésus nous dit de ne plus vivre avec cette habitude de la crainte et de l'inquiétude, parce que notre lendemain est assuré. Dieu est avec nous maintenant et sera avec nous demain. En fait, s'inquiéter en tant que croyant, soyons honnêtes, c'est péché. Je ne pêche pas, je m'inquiète. Ah ben si, c'est pareil. Pourquoi ? Parce que quand on s'inquiète, en fait, on choisit de croire que Dieu n'est pas capable. On ne lui fait pas confiance, en fait. On ne croit pas ce qu'il nous a promis. On ne croit pas qui il est. On ne croit pas ce qu'il est capable de faire dans notre vie. Parce que nous, on voit la réalité. On voit les difficultés. Hein ? C'est déclaré que notre Dieu, notre Papa Céleste, le Créateur de l'univers... Celui qui a tout donné pour nous sauver, nous racheter, nous délivrer de la mort et du péché, ben maintenant il est plus capable de prendre soin de nous ici-bas. Et ce texte est en train de nous dire tout le contraire. Et rappelle-toi en fait, s'il t'a sauvé, s'il a donné son fils, s'il a fait de toi son enfant, tu crois que maintenant il va t'abandonner ? Tu crois que maintenant, ben voilà, ben débrouille-toi. Ben tu vas mourir parce que de toute façon... Non. Quel est le père qui ferait ça ? Même si aucun père sur cette terre ne ferait ça. Alors notre Papa Céleste a combien plus forte raison, n'est-ce pas ? Et il donne quelques exemples, il dit, mais regardez les oiseaux du ciel. Ils font pas de grenier. Ils font pas de réserve. Et chaque jour, Dieu les nourrit. À combien plus forte raison, nous, on a quand même plus de valeur que des oiseaux, même si, attention, les oiseaux c'est important, c'est les animaux, c'est les créations, mais l'homme, c'est quand même, Dieu s'est pas fait oiseau, Dieu s'est fait homme. Il y a quand même une différence. D'accord ? Donc les oiseaux, il en prend soin. Et juste, il nous dit, mais juste pense, juste réfléchis. Je donne tous les jours à manger à tous les oiseaux de la terre. Alors, c'est vrai qu'il y a quelques-uns qui meurent. Mais des hommes aussi en meurent. D'accord ? Mais je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de chrétiens qui meurent de la faim. Et puis, il dit, par rapport aux habits. Alors là, ça touche peut-être plus les dames que les... Non, je vais dire des choses qu'il faut pas dire, rentrer un terrain glissant. Mais on aime bien, regardez, on a mis un pasteur, on a mis la cravate, on est propre, c'est la tenue du dimanche du pasteur. Et moi, je pense que c'est une façon d'honorer Dieu et de bénir Dieu, j'ai appris comme ça. Et je trouve que c'est bien que le dimanche, on honore Dieu, qu'on s'habille d'une belle manière. J'aime cette façon de faire en Afrique, ils font ça. Hein, on les voit, ils sont tous... Avant, on faisait ça dans nos cultures. Le dimanche, on avait la tenue du dimanche. Aujourd'hui, on est un peu plus relax, mais... Bon, tout ça pour dire que la tenue, bien sûr, c'est important comment on est habillé. On aime être bien présenté, bien se présenter, d'accord ? On aime suivre la mode, on aime voilà faire les choses pour être dans le... Hein, avoir une bonne apparence, que quand les gens ils nous regardent, ils disent « Ah oui, d'accord !» Mais derrière ça, ça parle aussi de notre identité, de notre valeur. D'accord ? Et ce que je veux vous dire, c'est que nous avons été revêtus de la justice de Christ. Nous avons une robe de pureté. Nous sommes aimés, nous sommes enfants de Dieu. Nous avons une nouvelle identité. On n'a pas besoin de craindre pour notre habit. Et Dieu dit, attendez, parmi tout ce que vous connaissez là, à ceux qui s'adressent, celui qui a été le mieux habillé de tous les Juifs, c'était Salomon. Le roi Salomon. Imaginez, il y avait peut-être tout un système pour préparer ses habits chaque jour, peut-être des nouveaux habits, j'en sais rien. Hein, c'était l'opulence. Il dit, mais attendez, les lys des champs, hein, ils travaillent ni une file et pourtant ils sont revêtus d'une plus belle gloire encore que celle de Salomon. Alors t'inquiète pas pour ça aussi. D'accord ? T'inquiète pas pour ça aussi. Pour ton identité, pour ta valeur, de qui tu es. Et donc c'est lui qui fait aussi, on l'a dit tout à l'heure, il fait tomber la pluie, fait lever chaque jour le soleil. Vous imaginez si le soleil s'était pas levé ce matin ? Là, on aurait de quoi s'inquiéter. Hein ? Mais il est là. Il est encore là. Vous imaginez si le soleil est là, est-ce que vous ne pensez pas que Dieu est là aussi ? Bien sûr qu'il est là. En fait, le problème de l'inquiétude, c'est que ça vient de l'ennemi. Pourquoi ? Parce que ça nous empêche de relever les défis de la foi. Ça nous centre sur nous-mêmes, ça nous paralyse. Hein, ça nous vole nos forces, notre pensée. En fait, ça nous rend prisonniers de nos désirs, souvent, plus que de nos besoins. On a tous des besoins, mais même de nos désirs, qu'on n'arrive pas à satisfaire. Et en fait, on est volé, on est dépouillé de l'expérimentation d'une rencontre avec Dieu et de voir la fidélité de Dieu. Parce qu'on est dans nos pensées, on est dans nos raisonnements, on est dans notre logique. Et Dieu n'a pas de place là-dedans, n'est-ce pas ? Et on se laisse voler les provisions de Dieu et de sa grâce. En fait, quand on se préoccupe comme ça, en s'inquiétant de l'avenir, ça entrave nos efforts pour le présent. Et le diable est un voleur de temps. Hier, j'aurais dû, aujourd'hui, j'ai peur de faire, et demain, je regretterai ce que j'ai pas fait aujourd'hui. Et on est dans l'inquiétude du matin jusqu'au soir, n'est-ce pas ? Et dans ces conditions-là, c'est difficile de racheter le temps. Hein ? Dans Éphésiens 5:16, on est invité à ça, à racheter le temps. Mais ça veut dire quoi ? Il faut payer ? Non, il faut penser avec Dieu. Il faut écouter Dieu, il faut faire confiance à Dieu. Il faut, on va le voir, il faut s'appuyer sur Dieu. Alors, quelques raisons pour lesquelles ne pas s'inquiéter. Ça vous intéresse ? Alors la première, on en a déjà un peu parlé, mais Dieu, il est le créateur, il est le rédempteur, et il est capable de prendre soin de nous. D'accord ? Vous êtes d'accord avec ça ? Pensez que Dieu, il a créé, puis maintenant il nous laisse tomber, puis débrouillez-vous. Ouais. Heureusement que c'est pas comme ça. Hein ? Dieu, il est là, il est capable. Il est capable chaque jour. Et vous savez, il y a des histoires dans la Bible, peut-être vous vous rappelez cette histoire d'Élisée, où il était la famine. Alors, c'était la famine, là, parce qu'ils étaient entourés d'ennemis. Il y avait une armée qui était tout autour d'eux. Et puis, le serviteur se lève et puis il dit, oh là là, mais comment on va faire avec tous ces ennemis ? Puis, Élisée vient et dit, mais Seigneur, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie que ceux qui sont avec nous sont plus. C'est une question de voir, c'est une question de Dieu. Qu'est-ce qu'on regarde ? Comment on regarde ? C'est ce qu'on a dit, lu un peu plus haut avant le texte sur l'inquiétude, d'accord ? Si notre œil est en mauvais état ou en bon état, comment on voit ? Et à un moment donné, donc c'est la famine à tel point qu'ils sont en train de manger leurs propres enfants. Vous imaginez pour en arriver à tel point ? Donc, des fois, Dieu permet, le timing de Dieu n'est pas le nôtre. Il y a des choses difficiles qui peuvent arriver. Et là, Élisée dit, mais aujourd'hui, Dieu va nous donner la délivrance et on achètera toute la nourriture qu'on veut. Alors, il comparait à l'époque, c'est dans le livre des deux rois, je n'ai pas les comparaisons, mais par exemple, Il parlait de la tête d'un âne, qu'il n'y avait pas grand-chose à manger, que ça coûtait une fortune, d'accord, et que personne ne pouvait l'acheter parce qu'il n'avait pas l'argent. Enfin, il n'y avait plus rien à manger. Et il y a un des serviteurs qui lui dit, mais Dieu ferait des fenêtres dans le ciel que ça ne serait même pas possible. Et il lui dit, ben, tu verras ça, mais toi, tu n'en mangeras pas. Et c'est ce qui s'est passé. En fait, Dieu a chassé a fait un tonnerre que tous les ennemis sont partis. Ils ont tout laissé dans le camp, toute leur richesse, toute leur nourriture, toute leur fortune. Et le peuple a pu avoir... Dieu a ouvert des fenêtres dans le ciel. Vous pensez pas que Dieu est capable de faire ça? Dieu est capable de pourvoir. Si vous voulez être édifié dans votre foi, lisez le livre de Georges Muller. D'accord? Avec les orphelinats en Angleterre, Georges Muller. Quelquefois, ils étaient à table avec les enfants. Ils avaient rien à manger. Ils se mettaient et priaient. Et quelqu'un venait à frapper à la porte. Et on apportait des pommes de terre. Ou le laitier, il avait cassé sa charrette et il pouvait plus livrer son lait. Il le donnait à... Que des histoires comme ça. Pensez pas que Dieu est capable de prendre soin de vous dans ce domaine aussi pratique? Bien sûr. Donc, ça c'est le premier point. Donc on n'a pas besoin de s'inquiéter, on a un Dieu qui est puissant, qui est capable. Deuxième chose, on l'a dit aussi, mais nos inquiétudes n'arriveront, la plupart de nos inquiétudes n'arriveront jamais. Enfin, ce qu'on craint ne va jamais arriver. Par rapport à la nourriture, alors c'est vrai qu'on est privilégié, on s'en rend pas compte, hein, mais moi j'ai jamais souffert de la faim. C'est pas le cas de tout le monde, même dans nos pays. Mais on a Dieu pourvoit, n'est-ce pas? Dieu prend soin. Dieu pourvoit pour nos finances, Dieu pourvoit pour remplir le frigo, Dieu pourvoit pour qu'on ait toujours quelque chose à manger. Donc en fait, quand on s'inquiète, c'est que Dieu nous, c'est que nous on se prend pour Dieu et on doit gérer tout ça. Et alors on dit non mais attends, laisse-moi faire les choses à moi. Ça veut pas dire, alors on verra après, hein, c'est pas oh ben je m'inquiète de rien donc je laisse aller ma vie, de toute façon Dieu est fidèle. C'est pas tout à fait ça. D'accord, on y reviendra. Donc la plupart de nos inquiétudes ne nous touchent pas. Donc ça sert à rien. D'accord? Elles sont inutiles. Elles ne rajoutent, troisième point, elles ne rajoutent rien à notre vie. Jésus le dit. Les gens inquiets vont pas vivre plus longtemps. Je crois qu'ils vont vivre moins longtemps. C'est un cancer de l'âme, n'est-ce pas? Quatrième point. La présence de Dieu avec nous aujourd'hui. Peut-être qu'on la sent pas, peut-être qu'on la ressent pas, peut-être qu'on n'en est pas conscient. Mais Dieu a promis qu'il serait là tous les jours avec nous et demain aussi sera avec nous. Est-ce qu'on mérite sa présence? Jamais. Mais elle est toujours là, disponible. Est-ce qu'on la cherche? Est-ce qu'on la croit? Est-ce qu'on la reçoit? Est-ce qu'on en prend conscience? Si Dieu est présent, mes amis, peut-être que à table il y aura que de l'herbe, mais il y aura l'amour de Dieu. Hein? Et mieux vaut une table avec peu ou de l'herbe à manger qu'une maison avec un bœuf engraissé où il y a la haine qui règne. Nous, on a l'amour de Dieu. D'accord? Et des fois, on peut apprendre à... Paul l'a dit, il a appris à se contenter. D'accord? Quelquefois, il n'avait peut-être pas grand-chose à manger. Il n'a peut-être pas mangé tous les jours. Mais il n'est pas mort de faim. D'accord? Et nous aussi. Et nous aussi. Cinquième point. Dieu est fidèle. C'est sa nature. Il est fidèle. Il est fidèle envers sa création. Et il est le rémunérateur. Chapitre 11 du livre des Hébreux, verset 6. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc Dieu est là. Il est fidèle. Et il a une provision dans chaque situation. Même celle que peut-être, là, en faisant une pause, imaginez peut-être des choses qui vous inquiètent, des circonstances de votre vie, de votre famille, de votre couple, avec vos enfants, dans votre église, dans votre travail, dans votre avenir, dans vos finances, dans votre santé, enfin, et la liste, il y a toujours un truc. Ah oui, vous savez, nous, on nous fait croire qu'on peut vivre dans un monde où il n'y a jamais un truc pour s'inquiéter. C'est ça, la vie. Il faut arriver à enlever toutes les inquiétudes. Excusez-moi, non. Il faut savoir gérer les soucis, les besoins, les difficultés et les gérer avec Dieu. Mais l'idée de ce monde de nous dire qu'il faut enlever toutes les inquiétudes parce que là c'est le bonheur, en fait c'est une fuite dans l'alcool, une fuite dans les drogues, une fuite dans tout ce que vous, dans le virtuel, pour oublier la réalité parce que la réalité, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et même des fois en moi, il y a des choses qui ne vont pas. Alors, sixième point. Ça, c'est un point important. Pourquoi ne pas s'inquiéter ? Dieu m'aime. Dieu m'aime. Dieu a prouvé son amour envers nous. Romains 5. Dieu nous aime. Dieu t'aime. Dieu, mais est-ce que je suis vraiment digne que Dieu m'aime ? Non, on n'est pas digne que Dieu nous aime, mais il nous aime. Il a prouvé. Il a donné son Fils. Donc s'il a donné son Fils, à combien plus forte raison ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui ? D'accord ? Donc l'amour de Dieu. Romains chapitre 8, verset 31 aussi. Dieu est pour nous. Dieu nous aime et Dieu est pour nous. Dieu est pour nous, n'est-ce pas ? Donc, verset 32, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui ? Et quand on a pris conscience de ça, et quand on accepte ça, quand on accepte humblement de reconnaître qu'on n'est pas Dieu, que même si on est adulte, on a besoin de l'aide de notre Papa Céleste, eh bien, ce qu'il nous propose, et ça, il faut le connaître par cœur, 1 Pierre 5,7. Vous connaissez 1 Pierre 5,7 ? C'est qu'on n'a pas besoin de se soucier parce que lui se soucie lui-même à notre place. Et il nous dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis. Car moi, je suis capable de porter ça, mais pas vous. Vous, ça va vous détruire. Vous, ça va vous enterrer. 1 Pierre 5,7, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous, lui-même se soucie de vous. Il nous aime, il est pour nous et il se soucie de nous. C'est pas merveilleux ça ? En fait, la question c'est, on a nos soucis, on a des soucis, on a des problèmes, on a des besoins, mais on sait vers qui se tourner. Au lieu de se laisser écraser par ces choses-là, on se tourne vers Dieu, on les confie à Dieu, on les apporte à Dieu, on les donne à Dieu. Hein, et c'est pour ça qu'il nous dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos pour vos âmes. Et c'est ça que le diable voudrait laisser dans notre vie, c'est qu'on est écrasé mentalement, dans l'inquiétude, dans est-ce que Dieu m'aime, est-ce que Dieu sera fidèle, est-ce que Dieu sera avec moi demain, est-ce qu'il va m'amener jusqu'au bout, alors qu'il a dit qu'il allait nous amener jusqu'au bout et qu'il ne nous abandonnerait jamais. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Où est-ce qu'on trouve le secours dont on a besoin ? Le secours quotidien. On va au trône de grâce, Hébreux 4, 16, n'est-ce pas ? Et là, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on reconnaît qu'on a besoin d'aide, on a besoin de son intervention. Mes amis, ne pensez pas qu'être chrétien, se dire « Oh, je ne vais pas déranger Dieu parce que là, il en a tellement à faire, surtout avec les autres, que je ne vais pas le déranger avec mes soucis à moi. » Erreur, 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 erreur. Parce que Dieu est capable de s'occuper de tous les soucis de tous les hommes sur cette terre, et les femmes, et des tiens aussi, et des miens aussi. Et ce qu'il attend, en fait, c'est qu'on vienne. Et qu'on vienne et qu'on dise, papa, j'ai besoin de toi. On parlait hier de l'importance d'avoir cette verticale avec Dieu. Chacun d'entre nous. Peut-être que Dieu a permis qu'on vive dans ce monde-là avec plein de besoins, plein de situations, plein de circonstances. Pourquoi ? Pour qu'on le cherche. Ça, c'est notre... Nous, maintenant, c'est notre option. C'est notre possibilité. On peut, au lieu de rester sur nous-mêmes, nous effondrer sur le malheur qui va nous arriver, qui ne nous arrivera certainement pas, mais voilà, et on vit dans la crainte, ben non, on laisse ça à Dieu et on vit joyeux. On vit dans la force de Dieu, on vit dans la vie de Dieu, on vit dans la foi au Fils de Dieu, Galates 2:20. Ensuite, dans ce texte, on a vu le verset 25, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Mais c'est quoi ma vie ? Qu'est-ce que c'est ma vie ? C'est juste survivre ? Ou c'est vivre ? Mais c'est quoi vivre ? N'est-ce pas ? Pourquoi est-ce que je suis sur la terre ? Quelle est ma raison d'être ? Je vais vous dire, aujourd'hui on n'a jamais eu autant de possibilités d'avoir accès à la connaissance. D'accord ? Tous ceux qui ont un téléphone et qui ont un Google et qui googlaient, c'est facile d'avoir les réponses de beaucoup de choses. Maintenant, on a même Gepetto. C'est comme ça qu'il s'appelle ? Hein ? L'intelligence artificielle, comment il s'appelle ? Chat. Ah oui, c'est chat. Chat. GPT. Voilà, je le connais pas, je lui parle pas trop, moi, ChatGPT, mais vous avez jamais téléphoné à ChatGPT ? Eh bien, mes amis, c'est le nouveau Dieu de ce siècle. Il a la réponse sur tout, même sur Dieu et sur Jésus. Vous serez étonnés. C'est l'intelligence artificielle. Et donc, on a tout ça, mais les gens ne réfléchissent plus aujourd'hui. Mais pourquoi je suis là? Quelle est ma raison d'être? Ah, ça c'est pas grave, il faut manger, il faut consommer, il faut s'amuser, il faut se faire plaisir. Mais on n'a pas le temps de réfléchir. Qui je suis? C'est quoi la vie? C'est quoi ma vie? C'est juste manger, boire, dormir, se lever, être bien habillé et faire ce qu'on a envie de faire? Se faire plaisir? J'aimerais vous dire, c'est pas plus que ça aujourd'hui, au XXIe siècle. Mais il n'y a plus de réflexion. Mais d'où je suis? Qui je suis? Où je vais? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Oh non, non, ça, non. T'inquiète pas de ça. Et ça, c'est une chose qu'il faut réfléchir. Vous voyez comment le diable a tordu les choses? Alors c'est quoi ma vie? C'est quoi? C'est me faire plaisir, m'amuser, passer le temps? Et nous, on a une autre option, c'est connaître Dieu. C'est connaître le Créateur. C'est le rencontrer. C'est entendre sa voix. C'est recevoir son amour. C'est méditer et se nourrir de ses pensées pour nous, de ses promesses, de ses voix. Et en fait, c'est ça, chaque situation difficile de nos vies. Et il y en aura tout le temps, tout au long de notre vie. Au lieu de s'inquiéter dessus ces situations, on peut rencontrer Dieu dedans. Et quelquefois, elles sont difficiles. On peut penser à l'exemple de Joseph. À un moment donné, son monde s'écroule quand il est vendu par ses frères, trahi par ses frères et vendu comme esclave. Alors, ça, c'était en fait une grâce parce qu'ils allaient le tuer. Donc finalement, ils ont opté pour finalement de ne pas le tuer et de le vendre comme esclave. Mais ça veut dire, c'était une mort assurée. C'était une fin. Sa vie était terminée, esclave en Égypte. Je veux dire, il n'a plus d'avenir, Joseph. Il aurait pu faire quoi? S'inquiéter. Alors, je peux imaginer qu'il y a eu des moments où, face à la réalité, à la violence, à la méchanceté, mais en même temps, qu'est-ce qu'il a choisi de faire? De rencontrer Dieu. Il était toujours esclave, mais il était avec Dieu. Et il a vécu son esclavage avec Dieu. Et Dieu l'a délivré. Et il a rencontré Dieu. Il est devenu un homme incroyable. Que Dieu a pu élever pour le salut de l'Égypte et de son peuple. Mais pour qu'il puisse pardonner ses frères, il y a dû avoir un sacré travail qui a dû être fait. Et je peux imaginer qu'il y a pu y avoir des moments où il pouvait s'inquiéter de la situation. Mais en même temps, il a choisi de connaître Dieu, de rencontrer Dieu. 1 Pierre 1,7, l'épreuve de votre foi. En fait, chaque fois, c'est le test. Qu'est-ce que je vais croire? Je vais mettre ma confiance en moi et m'inquiéter ou je vais croire Dieu et me décharger sur lui? C'est pas plus compliqué que ça. Pas plus compliqué que ça. L'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui est cependant éprouvée par le feu, elle aura un jour le résultat, la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. En réalité, on parlait de trésor tout à l'heure. Vous savez, quand notre trésor est sur la terre où la teigne et la rouille attaquent, on s'inquiète. On s'inquiète beaucoup. Plus on est riche et plus on s'inquiète. C'est paradoxal. Mais si notre trésor, c'est Christ, c'est la connaissance de Christ, c'est mon expérience de Christ, c'est ma vie avec Dieu, dans les hauts et dans les bas, surtout dans les bas, parce que dans les hauts, souvent, on n'a pas besoin de lui. Dans les bas, on sait qu'on a besoin de lui. D'accord? Et donc, on s'appuie et on rencontre Dieu. Et il y a un trésor qui est en train de se faire dans nos vies, dans nos cœurs. On est changé à l'intérieur. Christ commence à grandir en nous. Il y a un trésor éternel, pas juste un trésor qui, voilà, hein, un bon chèque sur le compte en banque. Non, non, un trésor éternel. L'image de Christ qui se façonne dans ma vie, dans mon cœur. Et donc c'est la question, où est mon cœur? Où sont mes yeux? Et si nos yeux sont sur les choses terrestres, sur l'argent? 1 Timothée chapitre 6 et verset 10, l'amour de l'argent a amené des gens loin, 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 loin. Ils se sont égarés dans la richesse, dans le pouvoir, dans la convoitise. Ils se sont éloignés loin de la foi. Parce que ça remplit, hein. Les gens, ils ont besoin de se remplir de quelque chose. Donc ils courent après des choses. Ils courent après Mammon. parce qu'ils pensent que c'est ça qui va leur apporter le bonheur. Mais nous, en tant que croyants, c'est plus lui qu'on veut servir. Parce qu'on a rencontré le seul maître qui est digne d'être servi, c'est Jésus-Christ, qui est lui-même un serviteur. Il nous a montré l'exemple, n'est-ce pas ? Il nous a montré l'exemple. Donc il y a toujours deux possibilités. Qui est-ce que je vais servir ? Et quand on se sert soi-même, on s'égare. Mais quand on choisit de servir le Seigneur, soit on va servir sa chair, et derrière il y a tout un royaume de la puissance des ténèbres qui est réveillé, ou soit on va servir le Christ, et là il y a tout un royaume aussi avec les provisions du royaume de Dieu qui vont être à notre disposition. C'est pour ça que Jésus nous dit, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Parce qu'il sait qu'on en a besoin. Il sait qu'on a besoin de manger. Si on arrête de manger, on ne vivra plus. Et il veut qu'on vive sur cette terre pour être ses témoins, pour être sa lumière, pour être la démonstration qu'il est fidèle, qu'il est vivant, qu'il est capable et qu'il peut prendre soin de nous. Et ce qu'il nous demande de faire, c'est de nous arrêter, de savoir qu'il est Dieu. Psaume 46, verset 11. C'est lui qui est en contrôle de tout. Et pourquoi je vais m'inquiéter ? Vous imaginez si vous avez votre papa, ça serait... Imaginez que votre papa, ça soit... je ne sais pas si c'est un bon papa en même temps. Bill Gates. Vous pensez que vous avez un problème d'argent ? Ah, peut-être qu'il ne vous en donne pas. Non. Peut-être qu'il n'en donne pas à ses enfants, je ne sais pas comment il fait. Mais... Non, vous voyez ce que je veux dire ? Mais nous, Bill Gates, c'est rien comparé à Dieu. Vous comprenez ça ? Bon. Alors, il y a quand même un point, j'aurais juste mentionné ça et puis on va bientôt s'arrêter. Merci pour votre concentration, votre écoute. J'aimerais vous dire que quand même, ne pas s'inquiéter, ce n'est pas non plus être dans la nonchalance ou dans la passivité ou dans la paresse en ne prenant pas nos responsabilités et en n'assumant pas l'importance de nos choix. Parce que quelquefois dire « Ah, Dieu est fidèle, moi je laisse ma vie, elle ira comme elle ira, hop, peu importe. » Je pense que oui, Dieu il est tout puissant, il est souverain sur nos vies, absolument, mais il nous a aussi donné le libre arbitre. Et nous a aussi, c'est à nous de faire des choix dans nos vies. D'accord ? Donc parce que des fois, oh Dieu est fidèle, bon, ça se fera comme ça. Ça ne veut pas dire que... Quelquefois on se déresponsabilise de nos choix et de nos des décisions que Dieu nous demande de prendre par la foi en obéissance à sa parole. Mais parce qu'on ne veut pas renoncer, en fait, à nous-mêmes. On ne veut pas prendre notre croix, donc « Oh, Dieu sera fidèle !» Oui, non, mais il y a des choix à prendre pour toi, là. Il y a des décisions à prendre. Il faut aller le chercher. Il faut lui demander, il faut s'approcher. Et quelquefois, Dieu est obligé de nous amener au bout de nous-mêmes. Parce que tant qu'on a des provisions, vous savez, tant qu'on a des provisions, on s'en sert. Et quand on n'a plus rien, c'est là qu'on est prêt à se tourner vers Dieu. Et quelquefois, Dieu amènera des épreuves dans nos vies où on n'a plus rien. Et c'est là qu'on va trouver le vrai trésor, qu'on ne voyait pas avant, c'est que Dieu est là. Et qu'il est capable de prendre soin de tous nos besoins. Du manger, du boire, du vêtement, du toit, des relations, de notre cœur, de notre avenir, de tous les domaines de notre vie, de nos relations, il est là pour ça. Donc tout ce qu'il nous demande de faire, c'est de nous approcher de lui, n'est-ce pas ? De lui confier nos besoins, de lui faire confiance, de croire dans sa fidélité, dans ses provisions. Et c'est au travers d'une foi active, écoute, prière, on peut parler à Dieu, et obéissance. Philippiens 4, 6, vous connaissez ces versets. C'est que, on ne va pas s'inquiéter pour notre vie, on ne va pas s'inquiéter pour le manger et pour le boire, mais en fait, Jésus nous dit, ne vous inquiétez de rien. Philippiens 4, 6, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, et des supplications avec des actions de grâce. En plus, vous voyez l'attitude qu'on a là ? C'est qu'on est, on n'est pas dans la dépression totale, je suis à la fin de my life. Marion, non, je suis... Je suis dans l'action de grâce. Pourquoi ? Parce que j'ai confiance en Dieu. Peut-être que la situation m'oppresse, mais je lui fais confiance. Et combien de fois on a, et sérieusement, comptez les nombres de fois où Dieu vous a délivré comme ça. Et vous ne pensez pas que la prochaine fois, il va aussi vous délivrer ? Même s'il devait ouvrir des fenêtres dans le ciel ? En fait, si on voit ça, c'est chaque situation, c'est une opportunité de rencontrer Dieu et de trouver le vrai trésor, c'est Christ. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, qui cette intimité, qui il nous façonne à l'intérieur, n'est-ce pas? C'est là qu'il nous façonne à son image, c'est là qu'il grave son image en nous. Sa sagesse. Pensez avec Dieu. Pensez avec Dieu, mes amis. C'est ça notre problème. C'est qu'on pense souvent, on raisonne, n'est-ce pas? On raisonne et on craint les tempêtes. Matthieu 16, 8, « Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi ?» Arrête de raisonner. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5, « Amenons nos raisonnements, notre logique, notre pensée humaine et laissons la pensée de Dieu. » Au lieu de marcher par la vue, marchons par la foi. 2 Corinthiens 5, 7. Peur face aux tempêtes? Vous savez, sur la barque, pourquoi avez-vous peur? Et c'est lui qui calme les tempêtes. Une parole et la tempête s'est arrêtée. Et souvent, les tempêtes émotionnelles, vous savez quoi, ça nous fait... Moi, le premier, Jésus, un mot, une parole, on est à l'écoute. Apaise nos cœurs, crois seulement, n'est-ce pas, dans Luc 8, 50. Donc, tout ça pour dire, et je conclurai, et merci pour votre écoute. J'aime ce verset dans... Peut-être ça peut être le verset pour ce week-end. Ça ira avec le partage aussi de vendredi soir. Proverbe 29, 25. La crainte des hommes tend un piège. Mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Quand on met notre confiance en Dieu, mes amis, il y a une protection. Il y a une provision. Il y a un trésor qui est en train de se faire. Que l'œil naturel ne discerne pas toujours. Mais Dieu qui façonne nos cœurs, qui apaise, qui nous donne la... on est tranquille. On peut se reposer. Oh là là, mais comment on va faire? Comment ça va sortir? Attends, Dieu a un plan. Et c'est pas pour m'excuser de dire, moi, je... Non, je vais faire confiance à Dieu, je ferai ce que j'ai à faire, je vais écouter, je vais lui faire confiance, je vais prendre mes responsabilités, je vais aller à la croix, je vais lui obéir. Et puis c'est lui qui va faire les choses. Et vous serez étonné de voir que ça marche. N'est-ce pas? Donc au lieu de l'inquiétude, on peut vivre dans la foi au Fils de Dieu. On peut trouver notre joie, notre sécurité dans cette communion intime. Et puis au travers d'une obéissance éprouvée. Et c'est là que, en fait, Dieu nous amène. Dans une obéissance éprouvée, testée. D'accord? On aura appris à lui faire confiance. Et c'est ce qui est magnifique. Parce que ce qui va nous changer, c'est la grâce de Dieu. Rien d'autre. Souvent, on sera au bout de nous-mêmes. Et puis là, on va voir que Dieu, on ne mérite pas que Dieu prenne soin de nous. On ne mérite pas que Dieu nous aide. On a été souvent égoïste, on est égocentrique, on n'a pas écouté, on a fait à notre tête. Et pourtant, Dieu est là. Il ne se lasse pas de pardonner, de restaurer, de nous relever, de nous aimer. Imaginez ça. Quelle est la vraie chose? C'est de croire que Dieu, ce qu'il a commencé en nous, il est capable de l'achever. Et si on croit ça, on n'a pas besoin de s'inquiéter pour l'avenir. On est dans les mains de Dieu. Philippiens chapitre 1, verset 6, n'est-ce pas? Et notre seule responsabilité, c'est continuer de croire Dieu. C'est le combat de faire confiance à Dieu. De Timothée 4, 7. Paul qui dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Croire Dieu. Quand tout semble impossible, quand tout semble fini, laissons Dieu. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que les hommes se disent, ce monde, c'est fini. Peut-être qu'ils pensent comme... L'homme naturel peut penser comme ça. Non, c'est pas fini. Dieu a son plan. On ne le voit peut-être pas, mais nous, avec l'œil spirituel, on voit que Dieu est en train d'accomplir son plan. Et que la rédemption arrive. Et que la justice et la gloire et la lumière arrivent. Et que les ténèbres seront chassées. Et que la victoire sera éclatante. D'accord? Nous, on le sait. On le sait pour la fin du monde, et on le sait aussi pour notre propre vie. D'accord? Et est-ce qu'on le mérite? Est-ce que ce monde le mérite? Non. C'est une œuvre de l'amour et de la grâce de Dieu. Pas plus que ça. Pas moins que ça. Donc, on n'a pas besoin de s'inquiéter de quoi que ce soit. Mais on sait où apporter. Alors, on est dans la réalité. Hein. On n'est pas dans un monde de bisounours. On est dans la réalité. On a des besoins, on a des craintes, mais on sait vers qui se tourner. Sur qui s'appuyer. Et laissons-le faire dans nos vies. Laissons-le travailler dans nos cœurs. D'accord. Seigneur, merci pour ta grâce, ta fidélité, et merci pour cette qualité de vie où on peut se reposer en toi. Vraiment. Et puis si quelqu'un peut-être a jamais parmi nous invité Jésus dans sa vie, découvert ce repos, de recevoir son pardon, son salut, demandez-lui qu'il vous sauve, ouvrez votre cœur, recevez son pardon, recevez sa grâce, recevez son amour, devenez enfant, fils ou fille de Dieu, et trouvez cette sécurité indispensable qui fait qu'on n'a plus besoin de s'inquiéter aujourd'hui, mais on peut marcher par la foi au nom de Jésus-Christ. Amen.